Chapitre 19. Double vengeance. La visite de Sébastien au cimetière avait un autre but que de faire ensevelir les restes de la première martyre. Il venait s'entretenir avec le pontife Marcellinus sur les moyens à employer pour préserver la vie de celui-ci. Elle avait trop de prix pour les chrétiens, on ne pouvait la laisser sacrifier si tôt, et Sébastien savait que de tous côtés, le souverain pontife était le point de mire de haines ardentes, enflammées encore par la cupidité. Les aveux de Torquatus, qui lui découvraient les desseins de Fulvius et le motif qu'il avait fait assister à l'ordination de décembre, accrurent encore les alarmes du tribun. La demeure habituelle du pape ne pouvait pas demeurer longtemps en sûreté. Une idée hardie traversa le cœur du courageux soldat, auquel ses actes donnent le glorieux titre de protecteur des chrétiens. Il pensait à loger le pontife là où personne ne le croirait, où aucune recherche ne viendrait le troubler, dans le palais même des Césars. Le Saint-Évêque quitta donc le cimetière, et sous un déguisement, il fut conduit par Sébastien et Quadratus dans les appartements d'Irène, une dame chrétienne d'un haut rang qui vivait dans une partie retirée du Palatin, où son mari remplissait une charge élevée. Le lendemain de grand matin, Sébastien alla trouver Pancratius. « Mon cher enfant, lui dit-il, il vous faut quitter Rome à l'instant et vous rendre en Campanie. J'ai des chevaux prêts pour vous et pour Quadratus. Vous n'avez pas de temps à perdre. » « Et pourquoi donc, Sébastien ? » répliqua l'adolescent, la figure attristée et les yeux pleins de larmes. « Ai-je donc fait quelque chose de mal, ou bien doutez-vous de mon courage ? » ?»« Ce n'est ni l'un ni l'autre, croyez-le bien, mais vous m'avez promis de vous laisser guider par moi en toutes choses, et votre obéissance ne sera jamais aussi nécessaire qu'à présent. »« Je vous en prie, bon Sébastien, dites-moi pourquoi. » »« C'est encore un secret maintenant. » « Quoi ? Vous avez un autre secret ? Donnez-lui ce nom si vous voulez. Les deux secrets vous seront révélés à la fois. Mais je puis vous dire ce que je désire que vous fassiez, et cela, je pense, suffira à vous satisfaire. » Corvinus a reçu l'ordre d'arrêter Chromatius et toute sa communauté, si nouvelle encore dans la foi, comme le malheureux exemple de Torquatus nous l'a prouvé, et, ce qui est pis, de mettre cruellement à mort votre vieux maître Cassianus à Fundi. Je vous demande donc de vous hâter de partir afin d'arriver avant le messager de Corvinus, peut-être s'y rendra-t-il lui-même, et de les mettre tous sur leur garde. » Pancratius leva les yeux d'un air ravi. Il voyait que Sébastien avait confiance en lui. « Votre désir serait pour moi une raison suffisante, dit-il, mais j'irai jusqu'au bout du monde pour sauver mon bon maître Cassianus et mes frères les chrétiens. » Il fut bientôt prêt, prit un affectueux congé de sa mère, et avant que Rome fût complètement sortie du sommeil, Pancratius et Quadratus, montés sur de bons chevaux portant des provisions de voyage, traversaient la campagne de Rome pour atteindre le chemin plus sûr et moins fréquenté qui conduit à la Voie latine. Corvinus avait résolu de concentrer entre ses mains toute l'expédition, afin de n'avoir à en partager avec personne l'honneur, les profits et le plaisir. Il la remit donc à deux jours. Il voulait que ses épaules eussent un peu perdu le souvenir des verges impériales et prendre son temps pour faire ses préparatifs. Il loua un chariot, engagea un corps de coureurs numides, de force à suivre une voiture lancée au galop. Mais toutes ces mesures à prendre donnèrent aux deux chrétiens deux jours d'avance sur Corvinus, quoique ce dernier voyageât par la voie appienne, le chemin le plus court et le plus fréquenté. Quand Pancratius arriva à la Villa des Statues, la petite communauté chrétienne avait déjà reçu l'éveil par les rumeurs que la publication de l'édit avait fait parvenir jusqu'à elle. Le jeune homme fut le bienvenu et le bien reçu de tous, et la lettre d'avis de Sébastien qu'il apportait fut lue avec un profond respect. Puis on pria, on délibéra et on prit des résolutions diverses. Marcus et Marcellianus, accompagnés de leur père Tranquillinus, s'étaient déjà rendus à Rome pour l'ordination. Nicostratus, Zoé et d'autres chrétiens les suivirent. Chromatius, qui n'était pas destiné à recevoir la couronne des martyrs, quoique l'Église ait placé sa commémoration et celle de son fils le 11 août, trouva un refuge momentané dans la villa de Fabiola. On s'était procuré des lettres d'introduction près d'elle, sans lui dire la raison de ses visites, car Chromatius désirait rester encore quelque temps en compagnie. On confia donc la villa des statues aux soins de quelques serviteurs fidèles et dévoués. Après avoir pris quelques repos et avoir rafraîchi leurs montures, les deux messagers regagnèrent le chemin que Torquatus avait parcouru naguère et, arrivés à Fundi, s'arrêtèrent dans une petite auberge située en dehors de la ville, sur le chemin de Rome. Pancratius trouva bientôt son vieux maître, qui l'embrassa avec une tendre affection. Il lui apprit le danger qu'il courait et lui conseilla de fuir, ou du moins de se cacher. « Non, dit le bon vieillard, cela ne doit pas être. Déjà, je suis âgé et fatigué de ma profession stérile. Mes deux vieux serviteurs et moi, nous sommes les seuls chrétiens de Fundi. Il est vrai que les meilleures familles de la ville envoient leurs enfants à mon école, parce qu'ils savent qu'ils y trouveront une morale aussi sévère que le paganisme peut le tolérer, mais parmi les élèves, je n'ai pas un ami en raison de l'austérité de cette morale. Ils n'ont même pas les délicatesses raffinées des païens de Rome. Ce sont de rudes provinciaux, et je suis sûr que les plus âgés d'entre eux prendraient ma vie sans scrupule s'ils pouvaient le faire avec impunité. Votre existence doit être bien malheureuse ici, Cassianus. N'avez-vous donc fait aucune impression sur vos élèves ? Peu ou pas du tout, cher Pancratius. Et comment le pourrais-je, obligé comme je le suis de leur faire lire ces livres dangereux, remplis de fables que la littérature grecque et romaine nous a légués ? Non, mes paroles ont eu peu d'effet. Peut-être que ma mort sera pour eux un plus utile enseignement. Les prières instantes de Pancratius furent inutiles. Alors l'adolescent fut tenté de se joindre à son vieux maître pour mourir. Mais il avait promis à Sébastien de ne pas exposer sa vie pendant son voyage. Il se résolut donc à errer autour de la villa pour apprendre la fin de cette triste aventure. Corvinus arriva avec ses hommes à la villa de Chromatius et, de grand matin, il força les portes et fit irruption dans la maison. Il la trouva vide. Il chercha partout et ne put découvrir ni une personne, ni un livre, ni même un symbole du christianisme. Il était confondu et désolé. Il continua ses recherches à l'extérieur et, apercevant un esclave travaillant dans le jardin, il alla droit à lui et lui demanda où était son maître. « Maître, pas dire esclave, où il va ?» répondit celui-ci dans un latin analogue à cette grossière phraséologie. « Tu te moques de moi. Quelle route lui et ses compagnons ont-ils pris ?»« La porte, là-bas. » »« Et puis ?»« Regardez d'où je suis, » répliqua l'esclave. « Vous, voir porte, très bien. Vous, voir pas plus. Moi, travailler là, moi, voir porte, moi, voir pas plus. » »« Quand sont-ils partis ? Tu pourras au moins me dire cela. » « Après que les deux vinrent de Rome. » « Quels deux ? Ils sont donc toujours deux ?» Un très bon jeune homme, très beau, chante très bien. L'autre très grand, très gros, très fort, oh, très fort. Vous voyez ce jeune arbre arraché par les racines ? Lui faire cela aussi facilement que moi retirer ma bêche de la terre. Ce sont les deux mêmes, s'écria Corvinus furieux. Encore une fois, cet enfant maudit a dérouté mes plans et détruit mes espérances. Oh, qu'il en souffrira ! Lorsqu'il se sentit un peu reposé, Corvinus se remit en route, décidé à décharger toute sa furie sur son vieux maître, à moins que celui qu'il regardait comme son mauvais génie ne l'ait précédé. Il passa tout le temps de son voyage à comploter des plans de vengeance contre son maître et son ancien camarade, et parut transporté quand, en arrivant à Fundi, il apprit que l'un des deux ne lui avait pas encore échappé. Il montra au gouverneur l'ordre qui lui donnait le pouvoir d'arrêter et de punir Cassianus. Mais cet officier, qui avait un reste d'humanité, lui fit observer que la mission qu'il lui montrait, étant en dehors de toutes les lois ordinaires, lui donnait plein pouvoir pour agir. Il lui offrit l'aide de l'exécuteur et tout ce qui lui serait nécessaire. Corvinus refusa. N'avait-il pas amené avec lui assez de force et de cruauté dans les gardes du corps qui l'accompagnaient ? Cependant, il prit avec lui un officier public. Il arriva à l'école au moment où les écoliers la remplissaient encore, ferma les portes et reprocha à Cassianus, qui s'avançait vers lui les bras étendus et la figure souriante, comme pour le remercier de sa visite, d'être un conspirateur contre l'État et un perfide chrétien. Une vive rumeur s'éleva parmi la bande des enfants et Corvinus vit, par le ton et par les regards féroces des écoliers, qu'il y avait là autant de jeunes oursons, doués comme lui d'un cœur d'hyène. « Enfants, cria-t-il, aimez-vous votre maître Cassianus ? Il a été aussi le mien, et j'ai contre lui bien des rancunes. » Un hurlement d'exécration résonna dans la salle. « Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles à vous apporter. Voici la permission du divin empereur Maximien. Vous pouvez lui faire ce que vous voudrez. » Une grêle de livres, de tablettes à écrire et d'autres objets de classe lancés contre Cassianus, qui restait devant ses persécuteurs, debout, les bras croisés, furent la seule réponse. Puis les écoliers s'élancèrent de tous côtés, l'œil enflammé, l'attitude menaçante. « Arrêtez, arrêtez !» cria Corvinus. « Il nous faut accomplir plus systématiquement notre besogne. » Sa pensée se reportait au souvenir de ces jours si doux de la vie d'écolier. Il avait jeté son regard vers un passé qui apparaît au cœur comme un agréable rêve, lorsque le présent semble dur et pesant. Il revenait au souvenir de ses premières années, où d'autres ne trouvent que des images heureuses et libres, des heures sans soucis et sans amertume. Et il ne songeait qu'à se rappeler ce qu'il aurait désiré faire alors à son maître, pour le permettre à ses enfants, qui, pleins d'espoir, l'entouraient. Il pensait que, dans son enfance, il eût été heureux de rendre à son maître chacune des corrections qu'il était obligé de lui infliger et d'écrire sur son corps en lettres de sang les reproches qu'il lui avait faits. Ce rêve délicieux allait être accompli. Il n'est pas dans notre pensée de blesser les sentiments délicats de nos doux lecteurs en leur décrivant les odieux et cruels tourments inventés par les païens pour faire souffrir les premiers chrétiens, nos aïeux. Il y en a peu de plus horribles et cependant de plus authentiques que les tortures infligées au martyr Cassianus. Placé lié au milieu de ces jeunes tigres féroces, il fut livré comme victime aux lentes souffrances que la faiblesse de ses enfants rendait plus cruelles. Les uns, comme nous le dit le poète chrétien Brudentius, taillaient dans sa chair leurs devoirs à l'aide des pointes de stylet d'acier qu'ils employaient pour écrire sur des tablettes enduites de cire. Les autres exerçaient leur brutalité précoce en infligeant tous les tourments imaginables à son corps déjà lacéré. La perte de son sang et les douleurs aiguës qu'il ressentait le firent évanouir. Il tomba sans connaissance sur le plancher, incapable de se relever. Un cri de triomphe éclata à la vue de sa chute, on lui infligea des insultes nouvelles et la troupe de jeunes démons s'éloigna. Des enfants féroces étaient fiers d'avoir cet exploit à raconter chez leurs parents. Il n'entrait jamais dans l'esprit des persécuteurs d'ensevelir décemment les restes des chrétiens. Corvinus, après avoir rassasié ses yeux du spectacle de son atroce vengeance et avoir excité à la cruauté les enfants, ses instruments dociles qu'il trouvait déjà prêts, laissa le vieillard expirant sur la terre où il se trouvait pour y mourir seul et abandonné. Son fidèle serviteur le transporta sur son lit et envoya le message convenu à Pancratius qui arriva bientôt auprès de son vieux maître pendant que son compagnon s'occupait des préparatifs de leur départ. L'adolescent fut rempli d'horreur de ce qu'il vit et du récit des tortures raffinées qu'on avait fait endurer au vieillard. Mais il se montra en même temps édifié de sa patience admirable. Pas un mot de reproche ne s'échappa de ses lèvres mourantes et la prière seule remplissait ses pensées et entr'ouvrait sa bouche. Cassianus reconnut son élève bien-aimé. Il lui sourit et, sans pouvoir parler, pressa la main de Pancratius dans les siennes. Il languit jusqu'au lendemain matin et expira doucement. La sépulture chrétienne lui fut donnée modestement dans la maison même qui lui appartenait et Pancratius sortit, le cœur pesant, indigné contre le sauvage inhumain qui avait conçu et fait exécuter une si horrible tragédie, sans pitié et sans remords. Il se trompait cependant. Dès que Corvinus eut assouvi sa vengeance, il sentit toute la honte de l'acte qu'il venait d'accomplir. Il craignait que son père, qui avait toujours estimé Cassianus, ne vînt à apprendre sa conduite. Il redoutait la colère des parents dont il avait démoralisé les enfants en les excitant à commettre presque un parricide. Il demanda donc qu'on attelât de suite ses chevaux, mais on lui répondit qu'il leur fallait encore quelques heures de repos. Cette halte prolongée accrut encore sa mauvaise humeur. Le remords, cet aigle rongeur, le tourmentant, il se mit donc à boire pour oublier ses soucis et passer le temps. Enfin, il put reprendre son voyage, et après s'être arrêté une heure ou deux, il continua sa route pendant la nuit. Le chemin, défoncé par des pluies incessantes, était mauvais. Il suivait les bords du grand canal destiné à sécher les marais pontins et sur les rives duquel s'élevaient deux rangées d'arbres. Corvinus avait encore bu à sa dernière halte. Le vin, le remords, la honte le surexcitaient. Il trouva bientôt que ses coursiers exténués allaient trop lentement et il se mit à les frapper avec fureur. Pendant qu'il les excitait ainsi, ils entendirent les pas de chevaux venant à toute vitesse derrière eux et ils s'élancèrent alors avec une rapidité effrayante. Le char qui suivait fut bientôt laissé à distance et les coursiers épouvantés passèrent entre les arbres sur les trois sentiers qui longeaient le canal et galopèrent en avant en faisant éprouver au chariot des secousses terribles. Les cavaliers, en entendant le fracas des roues, le bruit des sabots des chevaux et les cris des conducteurs, donnèrent de l'éperon à leurs montures qui allèrent en avant. Ils avaient dépassé les coureurs lorsqu'ils entendirent un craquement formidable suivi d'un plongeon. Les roues avaient heurté le tronc d'un arbre, le char renversé était tombé dans l'eau, entraînant avec lui, la tête en avant, le conducteur à demi-ivre. En un instant, Pancratius mit pied à terre avec son compagnon et se trouva sur le bord du canal. À la faible clarté de la lune qui commençait à monter à l'horizon, le jeune homme reconnut Corvinus se débattant dans le courant marécageux. L'eau ne paraissait pas profonde, mais les bords étaient argileux et glissants, et chaque fois qu'il tentait de reprendre pied, il retombait dans l'eau plus profonde au milieu du canal. Déjà, il était engourdi et épuisé par ce bain froid pris en plein hiver. « Si nous le laissions là !» grommela le rude centurion. « Fi donc, Quadratus, comment pouvez-vous dire cela ? Voyons, tendez votre main !»« C'est bien cela !» dit le jeune homme en saisissant son ennemi par le bras, au moment où il lâchait un arbuste desséché, en retombant sans force dans le courant rapide. C'eût été son dernier plongeon. Ils le ramassèrent et l'étendirent sur la terre dans un état qui eût fait pitié à l'ennemi le plus acharné. Ils frottèrent ses tempes de leurs mains et ils commençaient à prendre vie quand ses gens arrivèrent. Ils remirent aux soins de ses serviteurs ainsi que sa bourse qui était tombée de sa ceinture pendant qu'ils le tiraient du canal. Mais Pancratius reprit possession de son canif qui avait glissé avec la bourse et que Corvinus portait toujours sur lui, comme une preuve convaincante que Pancratius avait déchiré l'édit. Quand Corvinus fut revenu à lui, ses serviteurs prétendirent qu'il l'avait tiré de l'eau, mais que sa bourse était perdue, sans doute, dans le fond argileux du canal. Ils le transportèrent dans une chaumière des environs pendant qu'on réparait le char. Puis ils se régalèrent avec la bourse, tandis que leur maître dormait. C'est ainsi que deux actes de vengeance s'accomplissaient en un jour. La vengeance païenne et la vengeance chrétienne.